Bonjour à tous. Si Christian Hubert ne peut pas être présent et que je suis du coup l'unique lectrice, le texte qui va suivre a été entièrement co-rédigé. Et je dois d'ailleurs lui adresser des remerciements. En effet, si les relations entre Paris Musée et les conservateurs restaurateurs en ce qui concerne cet accord cadre sont fluides, c'est en grande partie grâce à lui et à Emmanuel Bas, responsable des réserves mutualisées. Et nous avons par ailleurs toujours eu une grande disponibilité d'écoute et de réponse de la part du service des achats marché de Paris Musée. Donc Paris Musée, c'est un établissement public qui rassemble donc les 14 musées de la ville de Paris. Les services centraux se situent rue des Petites Écuries à Paris et ce sont des services de support et de coordination au service des musées de la ville avec un service des marchés, un service financier, un service des expositions et des éditions et un service des collections. Cette communication donc, va commencer par un tout petit historique en guise d'introduction. Il est important, vous verrez, par la suite, pour vous parler ensuite de l'accord cadre et des réactions qu'il a suscitées à sa publication, de son déroulé et des réflexions sur son fonctionnement ainsi que sur son renouvellement. Juste pour mémoire, la FFCR recense à peu près entre 70 et 80% d'adhérents installés en Île-de-France. Ça donne un peu une idée de la teneur des réactions quand un marché du type de celui-là est publié. Donc jusqu'en 2013, les 14 musées de la ville de Paris ont une gestion administrative et financière autonome en lien avec un service de la ville qui est le service des musées et qui fait partie de la direction des affaires culturelles. Jusqu'en 2013, ils fonctionnaient selon de multiples marchés qui coexistaient dans chaque musée, marché d'entretien pour certains musées uniquement, les autres mettant en concurrence trois prestataires ou effectuant parfois des commandes directes auprès d'un restaurateur. Avec la création de l'établissement public en 2013, la réunion des 14 musées de la ville dans un établissement public unique et la création du service des marchés, un état des lieux, des pratiques et des besoins en restauration a été fait. Où l'on constatait que les seuils des marchés publics par nomenclature étaient dépassés, par exemple le seuil des 25 000 euros qui nécessite la création d'un MAPA pour la nomenclature, disons, restauration de peinture, est à considérer pour l'ensemble des 14 musées. Et c'est pareil pour les arts graphiques et pour la sculpture. Du coup, le service des marchés leur a proposé de travailler sur un accord cadre multi-attributaire. Le marché est donc rédigé par le service des collections de l'établissement public et les 14 musées, avec des groupes de travail qui conduisent à cet allotissement en 16 lots, en fonction des spécificités des collections des 14 musées. Et selon les lots, vous remarquerez que 1, 3 ou 5 groupements de restaurateurs sont sélectionnés dans l'accord cadre. Sachant que les prestations envisagées étaient opérations de constat d'état, d'entretien et de conservation-restauration des œuvres appartenant à la ville et prêtées à Paris Musée. Donc vous voyez qu'il y a des différences dans le nombre d'attributaires, c'est en général lié à la spécialité concernée. En peinture, 5 groupements ont été retenus parce que c'est la technique la plus présente dans les collections et parce que dans les 4 ans à venir, il y a la rénovation du musée Carnavalet et un seul groupement en photo parce que la ville de Paris possède son atelier de restauration, la RCP. Et on verra tout à l'heure que cette distinction a posé quelques problèmes, au moins pour un lot. Des simulations de commandes ont donc, dans le cadre de la démarche initiale, été demandées aux candidats. Je vous ai mis quelques images, sinon mon propos était un peu aride. Il n'y en a pas beaucoup. Reflétant la particularité de chaque grande collection, donc le Petit Palais, le Musée d'Art Moderne et le Musée Carnavalet. Les candidats du lot 1, par exemple, avaient 3 simulations de commandes. Cette consultation a suscité beaucoup de réactions, d'abord sur la plateforme de publication du marché, à laquelle les candidats étaient tenus d'adresser les questions qu'ils avaient à poser. Pas moins de 75 qui témoignaient d'une inquiétude manifeste des candidats. Un courrier a été également rédigé par un collectif de restaurateurs qui pointait la perte de contact entre les conservateurs et les restaurateurs, induit par le formalisme d'une part de la procédure, c'est-à-dire cette communication qui ne passait que par la plateforme, et surtout l'interposition, en quelque sorte, de l'établissement public entre le prestataire et les musées, dont certains candidats travaillaient déjà pour un de ces 14 musées de la ville. Ce courrier pointait également le problème de l'interdiction des variantes sur les simulations, le fait que la visite n'était pas obligatoire mais conseillée, alors que l'examen est quand même un élément clé de la démarche de la conservation-restauration, et s'inquiétait beaucoup de l'impact sur les délais de cette multiplication d'interlocuteurs, c'est-à-dire passer par la validation de l'établissement public, ensuite la présentation des devis en commission scientifique régionale, et puis un point général sur la procédure qui effectivement réclamait pas mal de pièces comme CV, références, diplômes, mémoire technique générale, plus les fameuses simulations, donc trois pour le lot peinture. En sculpture, je crois qu'on en avait deux. La FFCR a également envoyé un courrier à Paris Musée pour évoquer plusieurs problèmes. Elle s'interrogeait sur la question des montants, puisque certains lots, 300 000 euros étaient annoncés pour l'ensemble du marché, alors qu'on avait des montants maximum dans certains lots qui étaient à 500 000. Donc du coup, on ne comprenait pas très bien quelle était, en tout cas, l'estimation financière du besoin. On en revient toujours à la définition du besoin. Et puis effectivement une procédure assez longue, la difficulté de monter une équipe adaptée pour faire face à la multiplicité des opérations. Vous avez vu qu'il y avait un lot matériaux composites, objets 3D qui faisait intervenir des matériaux synthétiques, etc. L'intégration de la logistique, réunir les professionnels dont l'expérience coïncide avec la demande, se déplacer parfois sur plusieurs sites, quelquefois sur un même lot, prendre connaissance de l'ensemble des prescriptions juridiques, et il y en avait beaucoup, notamment des clauses de cession de droits, des rapports de plusieurs pages, avec quelques incohérences sur l'obligation de confidentialité, et en même temps, dans certains lots, on vous demandait de transmettre un rapport. Donc à la fois, on ne pouvait pas les transmettre, on n'avait pas le droit, mais en même temps, il fallait le faire. Donc c'était... voilà. La FFCR a été reçue par la directrice de Paris Musée. Il y avait également la conseillère culture du président de l'établissement, qui était donc Bruno Juillard à l'époque, le responsable de la cellule achat et l'adjointe à la direction des collections. Donc la question des montants a pu être désamorcée assez rapidement, c'est-à-dire que le montant global du marché était basé sur le budget des restaurations de l'année précédente ou des deux années précédentes, avec une moyenne, mais qu'en revanche, il ne voulait pas se bloquer par des montants maximum trop bas, puisqu'il y avait des projets de recherche de mécénat pour certaines opérations. Il y avait trois formes dans ce marché. On a eu un peu de mal au début à comprendre exactement ce que ça voulait dire. On avait donc tous s'appelaient marché subséquent. Certains étaient à bon de commande, d'autres étaient à forfaitaire et d'autres étaient forfaitaires avec acte d'engagement. Donc on comprenait que c'était la distinction entre l'entretien, le dépoussiérage, les interventions d'urgence et la conservation-restauration proprement dite, ou la conservation-restauration, la restauration fondamentale, quel que soit comment est-ce qu'on l'appelle, et que donc les marchés à bon de commande pouvaient être dédiés à l'entretien, justement. Et donc chaque musée avait la possibilité de solliciter les attributaires pour, sur la base d'un prix de journée forfaitaire, et ensuite fonctionner par un bon de commande qui correspondait à un nombre de jours pour les opérations d'entretien. Donc nous avons eu l'impression que nous étions entendus sur la lourdeur de la procédure, évidemment, et ils ont reconnu que les clauses juridiques drastiques sur le papier, alors que, je le rappelle, on est quand même juste en train de faire un acte de candidature, c'est-à-dire il y avait une disproportion entre ce qu'on devait signer et donner notre accord pour plein de choses, alors qu'au final, la réponse stricte à cet appel d'offres, c'était « on va vous sélectionner pour que vous rentriez dans l'accord cadre ». Donc il y avait une balance entre les deux qui nous semblait quand même assez à notre désavantage. Et nous avons évoqué la question de la coordination et des frais qui n'apparaissaient pas pour le coup, puisque les simulations, c'était un devis sur une œuvre. Donc au total, l'établissement a reçu 71 offres 5 pour le lot peinture, 5 pour le lot décor peint, 3 pour les arts graphiques, 2 pour les arts graphiques d'Extrême-Orient, une seule pour les lacs, une seule également pour les collections photographiques, 10 offres pour la sculpture, 6 pour les sculptures en métal, 2 pour les œuvres en matériaux organiques, 9 pour les arts du feu et arts du métal, 3 réponses en textile, 9 pour le mobilier, boiserie et cadres anciens, 3 pour les tapisseries, 11 offres pour les collections en 3 dimensions et matériaux composites. Et enfin, 5 propositions pour les études de conservation préventive. Donc si on considère comme base de référence une offre dans le cadre d'un groupement de peinture qui est composé du mémoire technique, des simulations de commandes et des CV, ça fait 362 pages par offre. Au total, 25 000 pages. Dans un premier temps, Paris Musée met en concurrence les groupements pour chaque restauration. Et évidemment, cette utilisation de l'accord cadre à 16 lots, pour la plupart multi-attributaires, est chronophage pour tous, parce que pour chaque marché subséquent, il y a quand même une lettre de consultation à rédiger, il y a un aller-voir à organiser, il y a une rédaction des devis, une analyse, une transmission des analyses. Paris Musée a donc mis en place ces marchés à bon de commande ou devis forfaitaires avec un nombre de journées annuelles, ce qui évitait au groupement d'être mis en concurrence pour une demi-journée de dépoussiérage, par exemple, pour les opérations de suivi dont on a déjà parlé. Et donc ces marchés à bon de commande sont annuels et ils peuvent être renouvelés une fois. Un an après la mise en place de l'accord cadre et au vu des échanges réguliers avec les mandataires, une réunion a été mise en place avec tous les mandataires des équipes pour améliorer et simplifier le plus possible les procédures. Cette réunion a eu beaucoup de succès, qui montrait donc que les prestataires étaient en demande d'échange sur ce sujet. Et du coup, à cette occasion, au bout d'un an, un état des dépenses globales et par lot a été communiqué aux restaurateurs, qui a permis de constater tout d'abord que, contrairement aux craintes émises au moment du marché, qui était que peut-être le besoin n'était pas bien défini, il y avait un bon nombre de commandes qui avaient été passées, mais aussi que l'engagement sur plusieurs lots était inférieur à 10 000 euros. Donc le nombre nécessaire de groupements de plusieurs lots a été jugé surestimé. Les restaurateurs ont regretté la multiplication des demandes de devis de manière générale et également à l'intérieur de certains marchés à bon de commande, c'est-à-dire que certains musées demandaient, à l'intérieur de leur marché à bon de commande, demandaient des devis, puis finalement revoyaient la liste des œuvres à traiter. Enfin, ça faisait des échanges un peu inutiles. Et il a été convenu de systématiser encore un peu plus, au cours de cette réunion, la précision et l'envoi systématique de l'analyse des offres sous forme de tableau, donc très clair, qui faisait vraiment apparaître les points forts de l'équipe retenue en comparaison avec l'équipe non retenue, et que ce serait systématiquement envoyé pour toute demande. Donc les améliorations suivantes ont été souhaitées et mises en œuvre, c'est-à-dire regrouper les demandes pour les interventions de conservation préventive et l'entretien des collections, pour éviter tous ces allers-retours dont je vous parlais, indiquer la date et la période à laquelle la réponse à la consultation sera donnée, parce que ce qui est difficile, on l'a dit, c'est l'organisation du planning, c'est-à-dire que vous avez une demande, si la réponse tarde, il faut organiser, savoir qui va faire le travail, comment on va l'organiser. Des indemnités à prévoir plus systématiquement, ça c'était prévu de manière dès le premier marché, c'est-à-dire d'indemniser les candidats non retenus lorsque la réponse demandait un travail conséquent. Par exemple, il y a eu un aller-voir prévu sur deux sites différents, une commande demandée sur un ensemble de sculptures monumentales. Dans ces cas-là, l'indemnité était intégrée à la demande. Mais finalement, tout demande du travail, donc ils ont entendu le fait que les indemnités pourraient être prévues plus systématiquement, indiquer la période souhaitée pour la réalisation de la restauration, toujours dans cette idée de pouvoir s'organiser, augmenter le délai de rendu. Maintenant, en interne, ils ont l'obligation de laisser tant de semaines entre le moment où ils envoient leur demande et le rendu de l'offre, et indiquer aussi pour le futur accord cadre un nombre de signes maximum pour le mémoire technique, afin d'éviter l'envoi superflu de notes déontologiques générales ou de mini-études préalables, comme ça arrive quand même assez régulièrement dans certaines disciplines. Et enfin, préciser au musée que le rapport peut être rendu sous forme d'une fiche type ou d'un rapport. Ça permet de faire une estimation financière qui correspond à ce qu'attend le musée. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le dédommagement plus systématique des candidats retenus, il faut noter que ces indemnités, elles sont financées sur un budget à part. C'est-à-dire que ça n'est pas dégrevé du budget total de la restauration de Paris Musée. Le réseau de conservation donc, dont on a parlé dans la présentation de Christian Hubert de Paris Musée, qui rassemble donc les personnels de conservation des musées, organise des rencontres annuelles sur des sujets de conservation préventive et de restauration. Il y a 2 ans, il a invité 2 restaurateurs de l'accord cadre à donner une formation aux utilisateurs de cet accord cadre pour les aider à rédiger le cahier des charges et à penser la définition de leurs besoins. Donc on a pu rappeler à quelques points essentiels comme la sécurisation du budget, s'assurer que le budget était suffisant pour lancer la consultation, parce qu'il y a eu des commandes annulées parce que finalement les offres étaient supérieures à l'enveloppe, les délais d'aller voir, de réponse, de remise des offres, donc 2-3 semaines entre la demande et la visite devraient être un minimum et 15 jours à 3 semaines selon la complexité des opérations, délai laissé au restaurateur pour finaliser la réponse après la visite. La direction des collections et le service des marchés de Paris Musée accompagne les musées et donc les nouveaux arrivants à Paris Musée, c'est-à-dire les utilisateurs encore peu réguliers du marché, sont formés aux règles de l'accord cadre et donc à ces évolutions suite à cette réunion avec les restaurateurs. Et la direction des collections accompagne également la direction des expositions dans le cadre des demandes de constat d'état pour les expositions temporaires et d'éveil pendant l'exposition. Donc ces consultations sont nombreuses, une à minima pour chaque exposition, environ 20 par an dans les 14 musées, quand le corpus n'entraîne pas plusieurs consultations en fonction de la nature des œuvres exposées. Donc les constats d'état des expositions temporaires pourraient rentrer à l'intérieur du périmètre d'un marché à bon de commande lancé pour l'entretien des collections des musées, donc c'est toujours 1 an renouvelable une fois. Mais du coup, les autres groupements du lot avaient fait valoir que les marchés de constat d'État, c'est aussi une occasion pour rencontrer des convoyeurs, des institutions étrangères, et du coup, ils auraient préféré qu'il y ait plus de renouvellement. Le projet de rénovation du musée Carnavalet, donc c'est un chantier qui concerne la rénovation partielle des bâtiments, et notamment la restauration de l'ensemble des décors historiques in situ, un bilan sanitaire de l'ensemble des collections et une programmation de restauration importante. Le musée Carnavalet a recruté 2 restaurateurs pour la réouverture du musée, spécialité peinture et sculpture, qui ont centralisé et coordonné l'ensemble des restaurations avec le service des collections. Et c'est là que le choix d'un lot mono-attributaire pour les décors peints au moment de l'élaboration de l'accord cadre s'est avéré peut-être inadapté ou en tout cas sous-évalué dans le cadre du chantier du musée Carnavalet, puisqu'il y avait toute la restauration in situ des décors historiques peints et que ce chantier a duré plus d'1 an. Donc on peut y voir peut-être les désavantages de la séparation entre bâti et collection, qui fait que cette information, à un moment donné, s'est perdue, puisque les décors peints relevaient de la restauration du bâtiment, mais que l'accord cadre avait un lot tout à fait dédié et spécifique. Pour éviter de multiplier les consultations et les demandes de devis, les marchés à bon de commande ont été lancés par matériaux pour les interventions légères. Peinture, sculpture métal, sculpture matériaux pierre et organique, le textile, les arts du feu, arts du métal et arts graphiques, donc pas l'ensemble des collections. Quant aux interventions fondamentales, évidemment, elles font l'objet de mises en concurrence dans le cadre de ces marchés subséquents. Donc la différence entre forfaitaire ou avec acte d'engagement, c'est une question de montant. Alors le bilan de l'accord cadre entre 2016 et 2020 et le futur marché de conservation et restauration de Paris Musée. Donc ce qui a fonctionné, c'est ce dialogue régulier avec les restaurateurs qui a permis des réajustements rapides, notamment sur cette question des délais, sans attendre. Des marchés à bon de commande pour la plupart du musée qui auraient pu ou dû être systématisés dans chaque musée. Ce n'a pas toujours été le cas. Et c'est vrai que quand on voit le profil des établissements, évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des musées avec des collections moins nombreuses. Les consultations et les analyses des offres écrites conjointement par le musée et le service des collections a permis des lectures croisées, des devis et des choix aussi objectifs que possible. Et à noter qu'une procédure métier a été écrite en interne pour bien utiliser l'accord cadre et respecter les souhaits des restaurateurs. Tout ce qui n'a pas marché, c'est le nombre de lots. Certains lots, comme le lot 16, qui était dédié aux études de conservation préventive, auraient pu sortir de l'accord cadre où il était mal pensé dans ce cadre, puisque les conseils en conservation préventive, en dehors des études globales, elles auraient pu être demandées à chaque groupement en fonction des matériaux concernés. Et puis, une complexité croissante dans le traitement des factures, ça c'était un petit peu le point noir, par le service financier, notamment, et ça renvoie complètement au mode de fonctionnement des groupements. la question de la facturation directe ou pas. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure. Soit le mandataire touche l'intégralité des sommes et la rétrocède à son équipe. Qu'est-ce qui se passe quand il ne travaille pas du tout sur le marché ? Ça peut arriver. Chaque co-traitant peut faire une facture directement. Pour ça, il fallait modifier l'acte d'engagement. C'est-à-dire, dans mon cas, en l'occurrence, on nous avait dit c'est possible. Certains co-traitants ont présenté leurs factures qui m'ont été réglées à moi. Je vous laisse imaginer ma comptabilité. Donc on a compris qu'il fallait modifier l'acte d'engagement, ce qui s'est fait assez rapidement, mais l'habitude étant prise, il y a eu encore quelques ratés après. Donc moi, ça m'oblige à faire des fausses factures, en fait, pour être clair. Par ailleurs, quand vous ne travaillez pas du tout et que vous rétrocédez l'intégralité, vous ne faites pas de marge, puisque en gros, vous vous contentez de recevoir le mail, de l'envoyer et éventuellement d'éditer la facture. Ce qui n'est pas un temps de travail inouï, mais ça, c'est suspect auprès de l'administration fiscale. Si vous touchez une somme et que vous la rétrocédez intégralement, donc ça posait quand même des questions, d'où l'intérêt de ce paiement par co-traitant. C'est vrai que selon la dimension des équipes, vous pouviez faire face à l'intégralité de demande. Si l'intervention systématique du mandataire est actée parce que l'équipe est moins importante, du coup il y a certaines demandes auxquelles il ne répond pas. S'il n'est pas disponible, par exemple, l'équipe n'intervient pas. Donc ça amène à poser la question de la coordination et de la rémunération au temps réel par le mandataire. Ce poste n'apparaît jamais dans les bordereaux et il est parfois mal vu des commanditaires. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des gestionnaires de musées qui reviennent vers le service des collections en disant « mais je ne comprends pas, c'est quoi ce poste de coordination ?» Dans nos pratiques, il faut dire que le mandataire n'est jamais rémunéré à la hauteur du temps qui passe. Donc nous nous en accommodons dans certaines spécialités parce que ça tourne. Un coup, vous êtes dans une équipe, mais vous ne faites pas du tout de gestion. Dans le cadre d'un chantier précis, c'est plus facile à évaluer le temps qu'on va y passer. Dans le cadre d'un accord cadre, vous êtes coincé pour 4 ans avec une certaine incertitude sur le volume. Est-ce qu'il va être régulier ? Est-ce que ce sera le même tous les ans ? Est-ce qu'il y a une périodicité ? Donc un groupe de travail a été constitué, composé de 3 restaurateurs pour réfléchir à la forme du prochain marché afin d'anticiper la fin de l'accord cadre. Donc ce groupe de travail a été initié en août 2019 avec 3 restaurateurs peinture, sculpture et textile, soit 1 an avant la fin de l'accord cadre, afin de réfléchir à ce futur marché. La première chose, c'est qu'il va être recentré, qu'il y aura moins de lots, on descend de 16 à 5, avec 3 groupements par lot. Donc ce qui a été retenu en fonction des montants, et c'est comme ça que ça a été discuté avec le service juridique, c'est qu'en fonction des montants par lot sur les 4 ans, ceux qui passaient en dessous des seuils, donc on n'a plus que peinture, art graphique et archives, textile et tapisserie, sculpture traditionnelle, collection 3D contemporain et mobilier. Le marché indiquera un nombre maximum de pages au dossier de candidature, essaiera de favoriser les équipes mixtes avec restaurateurs confirmés et nouvellement diplômés. Et pour l'analyse des offres, une proposition de commande par lot sera demandée et les devis fournis dans l'accord cadre seront lancés une fois le marché notifié. Ça avait été une des questions au moment de la première, c'est que c'était écrit noir sur blanc que ça ne donnerait pas lieu à une commande. Alors du coup, la manière dont on aborde les choses peut quand même être un peu changée. Et du coup, l'accord cadre pourrait prévoir 2 volets. Une part à bon de commande, bien séparée, pour les constats d'état, la veille, les petites interventions ponctuelles, mais qui permettraient quand même de faire tourner. Et le deuxième volet, sur le principe de la remise en concurrence des groupements présélectionnés via des marchés subséquents. Et le temps de coordination du mandataire sera prévu au BPU dans cette part à bon de commande. Voilà. Et il y a un travail qui reste encore à faire sur la définition des besoins et qui, là, pour le coup, recoupe la décision politique. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir aussi par rapport à la définition des besoins, c'est que de temps en temps, il y a des coups d'accélération sur certains projets. En sculpture, par exemple, il y a eu un financement du budget participatif pour traiter un un assez important ensemble de sculptures dans un square, des sculptures qui sont sur l'inventaire du musée Carnavalet. Donc ça, il faut bien l'intégrer, alors que ce n'était pas du tout anticipé, ni il y a un an, ni il y a deux, ni trois ans auparavant. Voilà. Et donc le projet de calendrier de publication envisagé, c'est publication en mars 2020, rendu des offres au 15 avril, 1er mars 2020, rendu des offres au 15 avril, analyse des offres avril-juin, et pour coller avec la commission d'appel d'offres de juin 2020, puisque vu les montants engagés sur l'ensemble de l'accord cadre, ça passe en commission d'appel d'offres à la ville. Voilà, je vous remercie.